Bonjour à chacun d'entre vous. J'espère que vous êtes bien reposés, que vous avez de l'énergie. Parce que moi, nous, avec la jeunesse, ceux qui me connaissent pas, je suis le pasteur de la jeunesse ici à l'Église de Sartier. Puis avec la jeunesse, ce vendredi, on est parti à Montréal avec 40 de nos jeunes aux Folies Lunaires. Et ça, c'est... Benjamin, il était là, il était content. 40 jeunes qui n'ont pas dormi de la nuit, puis j'essaie de récupérer de ça encore, mais on a vraiment eu un bon temps. Je pense que la réaction de Benjamin dit comment est-ce que les jeunes ont aimé ça. Une belle soirée, on était environ 750 à Montréal ensemble. Il y a eu une belle présentation du message de l'Évangile. Il y a des jeunes qui se sont avancés pour pour avoir des questions sur Christ et aussi s'engager dans une vie avec Christ. Donc ça, c'est toujours une bénédiction. Et on a eu du plaisir, des activités toute la soirée. On a mangé de la pizza. Et c'est ça, je me disais, cette année, ça fait 3 ans que je dors pas beaucoup la nuit. Fait que c'est pas trop comme une occasion spéciale pour moi, mais c'était quand même le fun. Puis tout le monde aimait ça, fait qu'on est bien content de ça. Ce matin, j'ai une question que j'ai sur mon cœur depuis quelques temps. Puis une question, je pense, qui semblerait comme être très de base à première vue, mais je pense que peu importe ça fait combien de temps qu'on est chrétien, que ça fasse quelques mois, que ça fasse plusieurs années, peut-être que tu es ici ce matin puis que tu explores la foi, mais que tu crois pas nécessairement en Jésus ou dans la Bible, mais c'est une question quand même qui est pertinente pour tout le monde. Et c'est une question qui est simple, et la question c'est: qui est Dieu? Et plus spécifiquement, qui est Dieu dans les moments difficiles de la vie? Qui est Dieu dans le brouillard de la vie quand ça va mal? Quelques exemples de ça dans mes relations, comme quand ça va pas bien dans mes relations, peut-être que ça va pas bien dans ton mariage, tu es en conflit avec quelqu'un. Qui est Dieu à ce moment-là? Qui est Dieu quand on est aux prises avec la maladie ou que quelqu'un dans notre famille ou dans notre entourage est aux prises avec la maladie? Qui est Dieu lors du découragement, de la dépression? Quand je fais face à un péché dans ma vie, il y en a plusieurs, mais juste pour en nommer quelques exemples, quand je lutte avec des abus de substances, quand j'essaie de me débarrasser de la crainte des hommes ou du confort qui m'empêche de m'engager dans la foi, qui est Dieu dans ces moments-là? Et comme on a vu cette semaine aussi, je finissais de préparer le message et je pourrais dire une des choses qui m'a frappé, peut-être sous un autre angle où on peut se poser cette question-là: qui est Dieu devant l'évidence que le monde ne va pas bien? Et vous avez vu l'actualité de ce qui s'est passé dans le monde, et on parle beaucoup de la France, mais en ce moment, il y a eu des attentats terroristes comme ça un petit peu partout dans le monde, des gens qui souffrent à tous les jours, même quand on n'en parle pas. Et cette question: qui est Dieu quand ça ne va pas bien dans le monde? Et il y a une chanson qui, d'après moi, qui résume ça, qui parle de cette question-là. Un auteur québécois qui s'appelle Sir Pathétique, un rappeur, en fait, qui a écrit, qui parle à Dieu, puis qui demande à Dieu des questions par rapport au monde dans lequel il vit. Et je vais lire quelques lignes de sa chanson qui dit: tant de haine et tant de souffrance, dis-nous Dieu ce que t'en penses. Trop de monde vivent loin de la chance, trop de cœurs vers la décadence. La vie est rough, commencer au ciel, sur terre c'est tough, parfois même cruel. La dépression touche nos âmes, même nos jeunes vivent des drames. Sors-nous de là, viens prendre un verre, vas-tu enfin écouter nos prières. Où je vis, on s'ennuie de toi, le ciel est gris, on se sent l'étroit. Le monde a froid, le monde t'espère, trop de pécheurs en ligne vers l'enfer. Tout va de travers, la petite misère, on désespère, hâte de te revoir. Et plus loin, il dit, aime-moi plus fort, aime-nous encore, guide-nous pour qu'on aille quelque part. Les temps sont durs, trop de familles souffrent, trop de monde tendu à bout de souffle. Si t'es là, reviens nous voir. Et il pose même la question dans cette chanson, où ils disent: qu'est-ce que je peux faire pour que tu m'aimes plus fort? Qu'est-ce que tu peux faire pour que tu m'aimes encore? Et c'est quand j'écoute cette chanson-là, quand que je lis ces paroles-là, il y a comme deux réactions qui me viennent une à la suite de l'autre. La première, c'est que c'est vrai que bien souvent, ça va pas bien dans le monde, puis même que mon monde à moi, ma vie à moi, va pas toujours bien, puis je me dis, il y a des choses que je vis qui sont difficiles, il y a des choses que chacun d'entre nous, on vit qui sont difficiles, et on arrive à se poser des questions. Et peut-être qu'on ne va pas nécessairement douter l'existence de Dieu ou la présence de Dieu, mais des fois, ça devient assez difficile même à s'en poser des questions. Et la deuxième réaction qui vient quand que je lis ça, je me dis, j'aimerais donc ça avoir le numéro de téléphone de ce gars-là, puis pouvoir l'appeler, puis avoir une discussion avec lui, parce qu'il me semble que, je me dis, il y a de l'espoir, et la Bible donne des réponses à ces questions-là. La Bible nous dit qu'il y a de l'espoir. Même si on ne peut pas toujours répondre aux questions difficiles de nos vies, il y a de l'espoir, il y a une solution. Et ce matin, ce que j'aimerais qu'on regarde ensemble, c'est un passage dans Éphésiens. Et peut-être ceux qui ont déjà ouvert le bulletin, vous voyez Philippiens, c'est une erreur de ma part. C'est bien dans Éphésiens, le chapitre 1. Je vais lire à partir du verset 17. Donc, je prie que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, nous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître. Je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints et quelle est l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité par le pouvoir de sa force envers nous qui croyons. Cette puissance, il l'a déployée en Christ quand il l'a ressuscité et l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute souveraineté et de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le monde présent, mais encore dans le monde à venir. Il a tout mis sous ses pieds, il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Donc, avant d'aller plus loin, on va se courber puis on va demander à Dieu de bénir notre temps ensemble ce matin. Seigneur Dieu, merci pour l'opportunité que tu nous donnes de nous rassembler ensemble entre frères et sœurs. Merci pour cette occasion qu'on a de pouvoir examiner tes Écritures, de pouvoir être réceptif, Seigneur, à entendre ce que tu as à nous dire et à être prêt, Seigneur, à te faire confiance, être prêt à être transformé par ta parole, Seigneur. Et ce matin, je te prie que tu puisses vraiment être avec nous, Seigneur, et mettre ta main sur nous pendant qu'on regarde ensemble l'encouragement de ta parole, Seigneur Dieu. C'est dans ton nom qu'on te prie, Seigneur. Amen. Donc ce matin, on voit une prière que Paul fait envers l'Église à Éphèse. Et une prière où ce qu'il va nommer Dieu de deux manières. Paul va dire, il s'adresse à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est le Père de gloire. Et qu'est-ce qu'on voit avant d'aller dans les éléments de la prière? On peut voir qu'en nommant Dieu de cette manière, Paul est en train d'annoncer le contenu de sa prière. Plus spécifiquement, il est en train tout de suite de dire, le Dieu à qui je demande ces choses, le Dieu à qui je vais faire des requêtes pour vous, c'est un Dieu en qui j'ai confiance. C'est un Dieu qui va répondre à cette prière. Parce qu'il croit que Paul croit que Dieu a cette capacité de le faire. Il affirme sa foi dans ce Dieu. Alors cette prière fait référence à ce qui a été dit, puis ce qui va être dit dans la prière. Et quand on dit ce qui a été dit, on n'a pas lu, mais on pourrait voir le chapitre 1, les versets 3 à 9, et entre autres, que Dieu parle justement au verset 3, le Dieu de notre Seigneur Jésus. Et ce qu'on voit, c'est que ce Dieu-là nous a bénis, les chrétiens, ceux qui croient en lui, de plusieurs bénédictions spirituelles. Et Paul s'adresse à ce Dieu-là, à celui qui nous a rendus saints et irréprochables devant lui. On voit que c'est celui qui nous a fait, qui a fait de nous ses enfants d'adoption. C'est lui qui nous a sauvés de nos fautes, par son sang qui a été versé, qui nous a offert le pardon de nos péchés. On voit qu'il nous a rendus héritiers pour nous, pour qu'on puisse célébrer sa gloire. Il nous a scellés du Saint-Esprit. Bref, Dieu nous a donné une nouvelle identité en lui. Et dès le début, en nommant Dieu de cette manière, Paul nous rappelle qu'on peut nous approcher de Dieu avec confiance. Ce Dieu qui nous a tout donné ces choses-là et qui nous a donné cette nouvelle identité. Donc, on voit le cœur de Dieu, d'un Dieu qui veut notre bien. Et dans les moments difficiles de la vie, dans le brouillard de la vie, une chose demeure vraie, Dieu veut notre bien. On voit que Paul s'adresse à Dieu, le Père de gloire. Dans cette prière, on voit la grâce, le pouvoir et la gloire de Dieu. On voit que ça, c'est tout illimité. Ce que Paul est en train de dire, c'est que Dieu est plus qu'adéquat pour répondre à nos prières. Car Dieu est tout puissant, on va voir ça tantôt. Dieu est tout puissant et quand on s'adresse à lui, il peut répondre à nos prières. Alors Dieu est pleinement qualifié pour répondre à nos besoins. Donc c'est avec cette confiance-là que Paul s'adresse à Dieu et qu'il va lui faire des demandes. Et principalement, ce que Paul demande à Dieu, ce que la prière qu'on regarde ensemble ce matin, c'est qu'on puisse connaître Dieu. Que Dieu puisse ouvrir les yeux de notre cœur pour qu'on puisse le connaître, qu'on puisse connaître ce qu'il nous donne. Et on va voir trois éléments qu'on a besoin de comprendre pour passer au travers du brouillard de la vie. Et le premier, c'est qu'on peut voir au verset 18, « Je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. » La première chose que nous avons besoin de comprendre, de connaître, c'est que Dieu nous donne une espérance. Dieu nous donne une espérance qui vient avec le fait d'être son enfant, d'être adopté, d'avoir été sauvé par lui. Et on peut juste lire le verset 6 du chapitre 2 qui parle de cette espérance-là et qui nous dit, « Il nous a ressuscités et fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. » Donc, une question ce matin que je veux vous poser, et on va revenir à ce passage-là, mais une question que je veux vous poser, c'est, et la réponse est évidente, êtes-vous capable de déterminer votre avenir? Savez-vous ce qui vous attend dans votre vie? En fait, est-ce que vous aimeriez ça, savoir votre avenir? Il me semble que quand je fais face à une décision, ça serait bien de savoir comment ça va finir tout ça. Je prendrai la meilleure décision en fonction de ce qui va se passer. Je vais aller voir dans mon futur, puis je vais aller voir qu'est-ce que l'avenir me réserve. Si je savais comment mes problèmes vont se régler, je serais peut-être plus encouragé. Il me semble que pas savoir, ça peut être stressant. Mais il y a aussi peut-être des choses que c'est bien de pas savoir à l'avance. Moi, j'ai trois enfants. J'ai un enfant de 8 mois, puis mon plus jeune, mon plus vieux, il a 3 ans. Et quand on a eu le premier Mathis, je me souviens que j'étais comme surpris de voir que Kim n'avait pas de l'air si stressé que ça. Je trouvais que, comme tu sais, elle va accoucher, on a entendu des choses à propos d'un accouchement. Il me semble que je trouvais peut-être qu'elle était stressée à l'intérieur, mais je trouvais qu'elle n'avait pas l'air si stressée que ça. Puis quand on a eu le deuxième puis le troisième, je me disais, on a déjà vécu ça, il n'y a pas de problème, on va passer au travers de ça. Mais ma femme, je la trouvais de plus en plus stressée à chaque fois. Puis la troisième fois, elle me disait même, hey, là, j'ai vraiment pas hâte. Tu sais, comme elle avait quasiment peur, je trouvais. Puis je disais, ah, ben là, Kim, t'as déjà vécu ça. Puis je pense que c'était ça le problème, elle avait déjà vécu ça. elle savait ce qui l'attendait. Puis, fait que je me dis, peut-être que c'est bon aussi, des fois, de pas savoir notre avenir. Et c'est bien comme ça. Mais en même temps, je me dis que quand on parle de l'espérance qui s'attache à l'appel de Dieu, je crois pas qu'il y a quelque chose de plus précieux pour un disciple, pour un croyant quelqu'un qui suit Jésus. Parce qu'en quelque sorte, en parlant de cette espérance, ce passage nous révèle notre avenir. Parce que l'espérance qu'on a nous dit, l'espérance qui vient avec le fait qu'on est des enfants de Dieu, nous dit que le brouillard peut être épais, la mesure de la souffrance peut être grande, suivre Jésus peut être vraiment difficile et engageant et demander de grands sacrifices, mais à la fin, on va être libéré de ce brouillard pour l'éternité. Et ce matin, je pense à n'importe quelle difficulté que tu vis présentement dans ta vie. Peut-être que c'est déjà le cas. Pense à la lourdeur de ce que tu vis. Pense à la réalité du monde qui ne va pas bien en ce moment. Et demande-toi comment est-ce que ça va finir tout ça. Mais en Jésus, notre espérance nous dit, te dit, tu vas t'en sortir. Tu vas être heureux à nouveau. Tu vas être libéré de tes fardeaux. Tu vas tout mettre ça derrière toi. Parce que Jésus t'a révélé que tu es assis avec lui dans les lieux célestes. Quand on connaît l'espérance que nous avons, c'est comme si on pouvait voir la lumière dans le brouillard. On est tellement convaincu que le soleil est là que c'est comme si on pouvait le voir. Cet été, je parlais avec un ami qui partageait comment il voyait sa vie sur la terre. Et comment sa perspective de l'éternité, du fait qu'il allait passer l'éternité avec Dieu, l'aidait beaucoup à vivre sa vie aujourd'hui. Il me disait, « Je suis tellement convaincu que tout va être meilleur au ciel. Je suis tellement convaincu que tout va être meilleur dans l'éternité que je suis prêt à faire des sacrifices. Je suis prêt à vivre des souffrances pour la cause de l'Évangile aujourd'hui pour le peu de temps que j'ai à vivre sur la terre. » Ça l'aide vraiment de voir une perspective qui est au-delà de notre vie, mais qui est une perspective de nous en tant qu'être qui allons vivre dans l'éternité avec Dieu. On est vraiment privilégié de connaître notre avenir en Dieu. Et Dieu aussi, en plus de nous révéler notre espérance, de nous promettre cette espérance, il nous dit que on est sa possession précieuse. Paul ici dit, au verset 18, il dit pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints. Ce passage-là nous dit que nous sommes l'héritage de Dieu. Dieu a fait de nous son peuple. Dieu dit que nous lui appartenons. On est sa possession. Dieu nous a choisis pour qu'on puisse le glorifier, pour qu'on puisse lui donner toute la valeur, toute l'importance comme étant la personne la plus importante dans nos vies. Dieu a fait de nous sa possession précieuse. Et qu'est-ce que ça fait dans nos vies? Mais j'aimerais qu'on considère ceci. À la Genèse, dans les dernières semaines, on regarde la question de l'ambition ensemble. Et une des choses qu'on a vues, qu'on a discutées, c'est qu'on est tous des personnes ambitieuses. On cherche tous, en quelque part, ardemment et avec beaucoup d'efforts, à obtenir, à avoir un sens à notre vie. On est tous dans une quête pour que notre vie ait de la valeur. On veut tous réussir, on veut tous se sentir important. Puis cette quête de sens se vit de plusieurs façons. Mais elle, ultimement, elle vise la réussite de notre vie. Le bonheur, la joie, l'accomplissement. On peut entreprendre cette quête de plusieurs manières. Ça peut être au travers de l'approbation des autres. Qu'est-ce que les autres vont dire? C'est ce qui va faire de moi une personne qui réussit et qui est heureuse dans la vie. On peut rechercher ça dans l'excellence. Tout ce que je vais faire, je vais réussir, je vais être le meilleur et alors j'aurai réussi ma vie. Quand j'aurai réussi dans toutes mes relations et que tout va bien aller dans mes relations, j'aurai plus de conflits, alors là, je vais avoir réussi ma vie. être reconnu comme une bonne personne, réussir dans mes objectifs de carrière, trouver la paix dans le monde. Quand que je vais avoir ces choses-là et je vais les garder, c'est à ce moment-là que je vais avoir réussi et que je vais être heureux dans la vie. Mais le problème, c'est que ces choses-là ne sont pas faites pour donner ce que notre cœur désire. Elles ne vont jamais pouvoir satisfaire notre quête de sens, puis on va toujours s'épuiser à poursuivre nos ambitions. Puis on va se décourager. Mais Jésus a dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vais vous donner du repos. » Jésus nous dit que son fardeau est doux et léger. Et quand Jésus est en train de dire ça, il dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, je vais vous donner du repos. » Il est en train de nous dire qu'il est la source de notre repos, il est la source de nos aspirations, de nos ambitions. Et quand on parle, quand on voit dans Éphésiens qu'on est son héritage, qu'on est sa possession précieuse, dans le fond, c'est que Dieu nous remplit de ses bénédictions, Dieu nous remplit de ses richesses et Dieu nous donne, en fait, ce que notre cœur désire vraiment, c'est de le connaître lui et de le suivre. Et considérons ceci, c'est que Dieu nous voit, nous, une communauté de pécheurs qui sommes rachetés en Jésus et qui continuent de porter des traces de notre nature pécheresse. Dieu nous voit, ses enfants, ceux qui croient en lui, ceux qui prennent la décision, qui le suivent, mais il nous voit aussi continuer à porter des traces de nos péchés, continuer à pécher, continuer à lutter avec le péché. Et malgré cela, Dieu en Christ, à cause de ce que Christ a fait à la croix pour nos péchés, il nous donne une valeur extraordinaire. Il nous voit en son Fils bien-aimé. Il nous donne cette valeur inexprimable. Ce que Christ a fait à la croix nous a rendus parfaits en lui. Et Paul prie qu'on puisse comprendre l'ampleur de la valeur que Dieu nous donne en Jésus. Vous êtes son héritage précieux. Une phrase que j'aime me rappeler et que j'ai lue une fois dans un livre et que j'aime me rappeler, c'est que en Christ, il n'y a rien que je puisse faire pour qu'il m'aime plus et rien que je puisse faire pour qu'il m'aime moins. C'est difficile d'imaginer, quand on considère les richesses de l'héritage de Dieu, c'est difficile d'imaginer où je vais trouver plus de valeur, plus d'approbation, plus d'importance. En quelque sorte, quand on se retrouve en Jésus, la quête de sens prend fin parce que Dieu nous donne ce qu'on a besoin dans la vie. Il sait comment il nous a créés, il sait ce qu'on a besoin. Je ne peux plus mettre ma fierté dans le fait d'être une bonne personne parce que c'est Jésus, la bonne personne, qui est mort à la croix pour mes péchés. Je ne peux pas être une meilleure personne que ça. Je ne peux pas être excellent, je peux pas être aussi excellent que je puisse être. Christ a fait le travail parfait pour me sauver. Et la paix se trouve en Jésus seul. Il nous a réconciliés avec lui. Toutes nos aspirations se trouvent dans le travail de Jésus à la croix. Alors, on peut regarder les difficultés de la vie et voir comment Dieu nous a remplis de richesses en faisant de nous son héritage, et prendre plaisir dans son œuvre qu'il a faite dans nos vies. Et Paul prie pour qu'on ait cette espérance, qu'on puisse connaître cette espérance, cette richesse. Il veut aussi qu'on puisse connaître la puissance de Dieu. Au verset 19, on peut lire, « Et quelle est l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité par le pouvoir de sa force envers nous qui croyons. Cette puissance, il l'a déployée en Christ quand il l'a ressuscité et l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes. » Donc, Paul parle de puissance, de force, il répète des mots qui veulent dire la même chose pour que nous puissions être convaincus que la puissance de Dieu pour nous est incomparable. Est capable de nous amener au salut final. quand on voit cette espérance qu'on a qu'un jour on va être assis avec Dieu dans les lieux célestes, qu'un jour notre vie, peu importe comment elle se vit sur cette terre, comment nos difficultés sont vraiment pesantes en ce moment, comment est-ce que c'est lourd, le fait que Dieu puisse nous prendre et nous amener vers le salut final, nous amener à vivre l'éternité avec Christ, puisse nous donner du courage, de la consolation dans ces moments-là, c'est parce que Dieu est tout-puissant et il a démontré sa puissance lors de la résurrection de Christ. Jésus est l'assurance que nous avons que malgré tout, on va passer au travers des épreuves de la vie. La prière, cette prière-là est une déclaration que Jésus, qui a donné sa vie pour nous à la croix et qui est ressuscité, va accomplir ses promesses. Et en fait, ce qu'on voit, c'est qu'il l'a déjà fait. Il a déjà accompli ses promesses et maintenant, c'est une question de temps avant qu'elle se réalise. Et c'est ça la certitude de l'espérance que nous avons en Jésus à cause de sa résurrection. Et Paul dit un peu dans une autre lettre qu'il a écrite à une autre église, il parle de la résurrection et il dit, « Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vide et notre foi aussi. » En fait, si Christ n'est pas ressuscité, on est tous ici ce matin et on perd notre temps. C'est ça que Paul est en train de dire. Et on peut voir qu'il y a des indices, c'est intéressant, des indices historiques de la résurrection. Il y a plusieurs personnes qui ont étudié le sujet de la résurrection, puis il y en a qui cherchent à l'étudier pour prouver que la résurrection est vraie. Il y en a d'autres qui ont cherché à prouver que la résurrection de Christ était impossible, ça ne s'est pas produit, c'était des mensonges. Et c'est intéressant de voir que, d'un point de vue de l'étude des faits historiques, comme on ferait dans toutes les autres faits de l'histoire, les autres choses qui se sont passées dans l'histoire, la résurrection est un fait historique qui est très possible au point de vue de l'histoire. Puis j'aimerais ça partager avec vous quelques points qui ont été discutés par rapport à la résurrection et vraiment, je veux pas prétendre que tous les points-là, c'est complet puis il n'y a rien d'autre sur la question puis que je m'attends qu'une fois que j'ai lu tout ça, maintenant tout le monde qui sont sceptiques, qui doutent de la résurrection, maintenant ils vont croire. Je crois que c'est des éléments de discussion qui sont intéressants. Il y a un article que j'ai lu sur ça, sur le site desiringgod.org qui en parle beaucoup, qui en parle davantage. Mais ça reste que c'est des éléments qui sont intéressants et qui sont encourageants pour la réflexion et pour la foi par rapport à la résurrection. Et le premier élément qui a été discuté, c'est la question du tombeau qui était vide. Pas longtemps après la résurrection, on voit que les apôtres ont commencé à prêcher à Jérusalem la résurrection de Jésus, que Christ était ressuscité. Et une chose qui est intéressante, c'est que, et ça, il y a aussi des témoignages de ça dans l'histoire, que à Jérusalem, c'est là que l'Église a commencé, les gens ont commencé à entendre parler de la résurrection. Et c'était très, très facile pour les gens qui entendaient dire que le tombeau était vide, d'aller vérifier pour eux-mêmes si c'était vrai. C'était très facile pour dire, ouais, moi j'ai entendu, mon ami m'a dit, il est passé par là, puis parce que la prédication de la résurrection est arrivée exactement au même endroit où est-ce que Christ a été ressuscité, avait été enterré. Un autre point qui est intéressant, c'est que les Juifs de l'époque, qui étaient hostiles au christianisme, ont admis que le tombeau était vide. Par contre, ils expliquaient ça par le fait que les disciples auraient volé le corps. Mais on dit en histoire que c'est très intéressant quand un côté qui essaie de prouver le contraire, le côté hostile, arrive à la conclusion de l'autre. Et on va voir le problème tantôt avec les disciples qui auraient volé le corps. Un autre aspect historique intéressant, c'est qu'on voit dans les Écritures, dans les témoignages de la résurrection, que ce sont des femmes qui ont trouvé le tombeau vide. Et ça, on n'a aucun problème avec ça, mais à l'époque, ça aurait été un problème d'inventer une histoire puis d'utiliser des femmes dans la légende de la résurrection pour dire que le tombeau était vide parce qu'on ne se fiait pas sur le témoignage des femmes. Ça aurait été plus plausible de mettre un homme reconnu, renommé des gens, des hommes, dire « eux, ils ont vu le tombeau vide ». Donc, si c'était une histoire inventée, une légende, c'était très maladroit. Et un autre problème qu'on a avec l'argument du corps volé, qui aurait voulu voler le corps, la question c'est justement qui aurait voulu voler le corps? Les Juifs et les Romains voulaient éteindre le christianisme. Les Juifs et les Romains espéraient, qu'en tuant Jésus, que le mouvement qui se passait dans cette région-là du monde à propos de Jésus et tout ce qui se passait, ils se disaient, ben là, ça va être fini. Puis ça arrivait souvent qu'on tuait des chefs comme ça d'un mouvement, puis le mouvement, il allait mourir. Et c'est ce que les Romains et les Juifs voulaient. Et alors, les chrétiens, eux, auraient fait ça? Quand on regarde ce qui s'est passé dans l'histoire, on voit qu'ils ont payé un prix bien trop grand pour faire croire une légende. Si eux, ils avaient volé le corps, puis qu'ils l'avaient caché pour commencer à parler de la résurrection, je m'imagine qu'à un moment donné, lors de la persécution, quand tous leurs amis commençaient à mourir, ils auraient fait comme « Hey, c'est une joke, on va vous montrer où est-ce qu'on a mis le corps, arrêtez. » C'est un peu difficile à croire que les chrétiens auraient continué à propager ce message-là en ayant payé ce prix-là si ce n'était qu'une légende qu'eux avaient créée de toutes pièces. Alors, qui aurait volé le corps? Et un autre point qui est intéressant, c'est les apparitions de Jésus après la résurrection. On parle de trois possibilités concernant les témoignages des disciples qui disent avoir vu Jésus. Le premier, c'est ben peut-être qu'ils ont menti. Mais encore une fois, comme on a vu tantôt, la même chose avec le corps, le tombeau vide, le corps volé, ben 10 des apôtres sont morts puis plusieurs chrétiens ont été persécutés. C'est difficile à croire qu'ils auraient continué dans leur mensonge. Une autre théorie qui a été avancée, c'est qu'ils ont tous halluciné avoir vu Jésus. Donc, ils croyaient vraiment avoir vu Jésus, mais c'était des hallucinations. Ils ont touché Jésus, mangé avec lui, parlé avec lui. Et c'est un peu difficile à croire que tous ces gens-là, en même temps, auraient eu des hallucinations. La même hallucination. Et la troisième possibilité, c'est qu'ils ont vu Jésus, pour de vrai, que Jésus leur est apparu et que le message de l'Évangile subsiste jusqu'à aujourd'hui. Si Jésus n'est pas ressuscité, comme j'ai dit tantôt, la foi chrétienne ne vaut rien. La résurrection prouve que ce que Jésus a dit de lui-même était vrai, ce que la Bible dit de Jésus est vrai. Et Jésus nous a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Jésus a proclamé qu'il était Dieu. Et ici, dans le passage, on voit que la résurrection de Jésus prouve qu'il est tout-puissant. Et lors d'une des apparitions, justement, à ses apôtres, Jésus a dit, « Tout pouvoir m'a été donné sur la terre et dans le ciel. » Et j'imagine que pour les apôtres qui savaient qu'il était mort 3 jours avant et que là, qu'ils voient Jésus leur dire ça, je crois qu'ils pouvaient facilement faire référence au fait que Christ était ressuscité. Et ce n'était pas difficile à croire pour eux que Dieu était que Jésus était tout puissant. Jésus est le seul leader religieux qui n'est plus dans sa tombe. Et comme on l'a vu, plusieurs personnes ont été témoins de ça. C'est sûr qu'on peut donner tous les faits historiques, tous les arguments, puis ce n'est pas tout le monde qui va croire, qui va mettre leur confiance dans Jésus. Mais c'est quand même encourageant et rassurant de voir que la foi chrétienne a des appuis historiques et que plusieurs ont été témoins de la puissance de la résurrection et qui par la suite ont donné leur vie à Jésus. Et un autre verset vraiment encourageant dans le chapitre 3 d'Éphésiens au verset 20 nous dit « À celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons. » À lui soit la gloire dans l'Église, en Jésus-Christ pour toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. À celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment plus que nous demandons. C'est ce Dieu qui nous donne une espérance et qui nous remplit de la richesse de son héritage. Il y a 3 éléments justement ce matin qu'on a vus ensemble. que cette prière mentionne. Que nous puissions connaître l'espérance qui s'attache à notre appel, la première. Que nous puissions connaître la richesse de son héritage et la puissance qu'il a démontrée par la résurrection. Par cette prière, on est encouragé à constamment rendre gloire à Dieu parce qu'en Jésus, nous avons tous ces bénédictions spirituelles. C'est un travail quotidien de constamment rendre gloire à Dieu pour ce qu'il nous a donné, pour ce qu'il a fait dans nos vies et ce qu'il continue à nous donner aujourd'hui. Si on arrête de faire ça, on oublie qui Dieu est et ce que Dieu fait dans les moments difficiles. Et dans cette prière-là, on voit juste par le fait que Paul fait cette prière-là, qu'on est encouragé à constamment prier que nous puissions comprendre pleinement ce que Dieu nous a donné et quelle différence ça va faire dans notre vie. On a besoin de se rappeler et de prier et se prêcher ce message de grâce à chaque jour. Parce qu'à chaque jour, on a besoin de se rappeler ce qu'on a pour être capable de passer au travers des brouillards de la vie. Les situations difficiles de la vie, nos vaines aspirations, les tragédies vont toujours être là. Et à chaque fois, dans ces situations, on a une opportunité de faire ce qui plaît à Dieu et de lui rendre gloire par notre manière d'agir. Dans ces situations-là, ça va être normal. Il va toujours avoir parfois de la colère, des questions, des doutes, de l'angoisse de ne pas connaître les réponses. Mais ça va toujours être important de se rappeler que Dieu n'est pas le brouillard. Dieu ne crée pas ce mal dans nos vies. En fait, les circonstances de la vie ne déterminent pas si Dieu nous aime ou si Dieu nous a abandonnés. Dieu a déjà déterminé son amour envers nous en envoyant son Fils à la croix et en le ressuscitant d'entre les morts et en nous donnant l'espérance d'une vie avec lui. Je lisais hier un tweet sur Twitter d'un gars qui, en réponse à tous les attentats qu'il y a eu dernièrement, il dit « C'est quoi le problème avec le monde? » Et une autre chanson qui, ceux qui connaissent le groupe Down Here, qui est un groupe chrétien, qui parle, le problème avec le monde, c'est moi. Et souvent, on est ici ce matin et on confond le mal, le péché dans nos vies, les circonstances qui nous entourent à cause peut-être du péché des autres aussi. Et on a tendance à blâmer ou accuser Dieu ou poser des questions et notre foi va être ébranlée et c'est normal. Mais c'est bon de se rappeler que le problème, c'est que nous sommes pécheurs. Mais la joie dans tout ça, c'est que Dieu a déterminé son amour envers nous. Que Dieu est la lumière, Dieu est le phare qui veut nous diriger au travers des brouillards de notre vie. En se faisant connaître à nous, Dieu nous donne l'opportunité merveilleuse de connaître l'espérance, la richesse de son héritage et sa puissance. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit se rappeler à tous les jours. Il te donne absolument tout ce que tu as besoin pour naviguer au travers d'une vie difficile. Dieu te dit, il y a plus que la souffrance, il y a la guérison. Il y a plus que le doute, il y a des réponses. Il y a plus que la misère, il y a l'espoir. Plus que la destruction, il y aura la paix. En se faisant connaître à Dieu nous révèle l'issue de nos vies et la puissance qui nous permet de passer au travers de ces moments-là. Et c'est ce message de grâce que nous avons besoin de nous rappeler à tous les jours, de nous prêcher à chaque jour. Et c'est à ce moment-là qu'on va commencer à changer, à voir Dieu, à espérer Dieu, à croire que Dieu peut faire une différence dans nos vies et dans le monde. Le changement dans nos vies vient quand on se laisse transformer par le Dieu qui se fait connaître à nous. Je ne sais pas pour vous, mais On le sait qu'à tous les jours dans le monde, il y a toujours des difficultés, de la misère. Il y a des gens qui souffrent sans que les médias vont en parler. Mais quand même, quand que ça vient dans notre face et que c'est juste de ça qu'on parle, il me semble que le brouillard est pas mal épais. Puis hier, je regardais tout ce qui se défilait, tout. J'avais une tristesse profonde du mal dans le monde et je ne cherchais pas à avoir des réponses aux questions. Mais dans ces moments-là, c'est encourageant de savoir qu'il se trouve de la joie dans l'espérance que nous avons en Dieu. C'est vraiment encourageant de trouver qu'à cause de notre espoir en Jésus, on peut lui faire confiance pour nos vies. Et aussi, on peut contribuer à être des personnes qui allons démontrer l'amour et l'espoir autour de nous dans notre vie. Et de croire que Dieu veut changer notre vie et veut changer la vie des gens autour de nous, des gens qui souffrent. Et c'est quand on se laisse transformer par ce Dieu-là qui se révèle à nous, qu'on puisse se rendre disponible, puis croire que dans un monde où c'est difficile, que la souffrance, elle est difficile, que la souffrance est dans notre vie, que Dieu veut faire son œuvre dans nos vies puis dans la vie des autres. Et ce matin, je vais conclure dans la prière et je vais juste laisser dans le silence, un temps de silence pour vous laisser le temps de remettre à Dieu des difficultés, la souffrance que vous vivez, les choses difficiles que vous vivez et de reconnaître dans la prière que Christ vous donne ce qu'il faut pour passer au travers de la vie, de ces difficultés-là, de vous donner l'espérance que vous avez besoin pour être encouragé dans les moments difficiles, de nous donner la puissance, la force nécessaire que nous avons besoin pour contribuer à répandre l'amour et l'espoir autour de nous, le message de l'Évangile. Prenons un temps dans le silence et allons vers ce Dieu. Avec confiance, demandons-lui qu'il vienne restaurer nos vies brisées et qu'il vienne nous donner de la joie en ce moment, malgré les difficultés de la vie. Seigneur Dieu, tu es parmi nous ce matin et tu nous connais, chacun d'entre nous, personnellement. Seigneur, tu sais quelle situation que chaque personne ici vit en ce moment. Tu connais les détresses de nos cœurs, tu connais les difficultés de nos vies. Tu connais notre incompréhension face au mal et à la misère qu'il y a dans le monde. Et ce matin, Seigneur, on est ici puis on veut t'approcher avec confiance et te demander de nous faire du bien, de transformer notre cœur, Seigneur, de mettre la joie à la place de la tristesse et de nous rassurer dans l'espérance que nous avons, Seigneur. Merci de nous donner cette perspective plus grande que la vie sur la terre, que mes difficultés, mais que tu me donnes cet espoir qu'un jour, Seigneur, tu vas tout rendre parfait. Et merci parce qu'aujourd'hui, tu nous appelles, Seigneur, à contribuer. Tu appelles l'Église Le Sentier à se laisser transformer par toi et contribuer à propager ce message d'amour, d'espoir, ce message de Christ qui est mort pour nous, réconcilié avec Dieu, et qui est ressuscité puissamment. Seigneur, que ces paroles puissent être un encouragement pour nous, que cette semaine, tu puisses les utiliser pour qu'on puisse passer au travers d'une difficulté, et que tu puisses nous donner le courage qu'on a besoin pour être des témoins de Jésus efficaces. Merci parce que tu as tout accompli pour nous, et que tu nous donnes la force, Seigneur, de te suivre et d'être encouragé par ta présence dans nos vies. C'est dans ton nom que je te prie, Jésus. Amen.